Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés des médias suivants. Le Devoir et la presse. Au programme, la littérature autochtone. Plus qu'une saveur du mois. Et l'autre justice. Bonne écoute.
La littérature autochtone, plus qu'une saveur du mois. Un texte de Manon Dumais, paru le 3 juin 2023 dans Le Devoir. Lancé récemment au Salon du livre de l'Abitibi-Témiscamingue, SLAT, la troisième édition d'en juin, je lis autochtone, semble avoir le vent dans les voiles. Selon les créateurs de l'événement, Daniel et Cassandre Sioui, propriétaires de la librairie et des éditions Anunnorak à Wendake. C'est la première année qu'on s'associe avec le SLAT, explique Daniel Sioui. Même si on n'était pas encore en juin, on trouvait que c'était une super bonne idée, étant donné qu'il y avait une belle programmation autochtone. Je n'étais pas présent, mais en regardant les chiffres de vente, je sais qu'il y a un grand engouement pour les littératures autochtones. De fait, outre le succès phénoménal du roman « Koukoum », Stanké 2019 de Michel Jean, toujours très populaire en librairie, rappelons la vague d'amour que suscite la poète Joséphine Bacon, You Wish, quelque part, Mémoire d'encrier 2018. Le prix des collégiens remporté en 2020 par Chouni, Mémoire d'encrier 2019, de Naomi Fontaine, à qui l'on doit aussi Kwashipan, Mémoire d'encrier 2013, magnifiquement porté à l'écran par Myriam Véro en 2019. Si je compare les 5 dernières années avec l'époque où j'ai commencé ma carrière, il y a 20 ans, quand je m'intéressais moins à la culture autochtone, c'est exponentiel, constate l'artiste Jocelyn Sioui, qui vit à Montréal. En Gaspésie, mes salles sont pleines. Cette année, j'ai présenté mon oncle, Jules, 5 soirs à Vancouver, où je ne suis pas connu du tout, et la salle était pleine. Pour quelqu'un dont le visage n'est pas connu, j'étais marionnettiste à la base et je travaillais beaucoup dans l'underground. D'arriver à remplir une salle, c'est la preuve que ça intéresse les gens. Dès la première édition de « Je lis autochtone », Daniel et Cassandre Sioui ont été surpris par la réponse enthousiaste des libraires. « Tout le monde embarque !» s'exclame Daniel Sioui, qui a également créé « Kwayatonk », Salon du livre des Premières Nations, dont la 12e édition se déroulera à Québec du 16 au 19 novembre 2023. On n'a pas eu le choix de continuer, on ne pensait pas que ce serait aussi gros. La première année, c'était un peu la folie, renchérit Cassandre Sioui. L'un des distributeurs avec lesquels on faisait affaire nous disait que dans les librairies où il y avait une mise en place des littératures autochtones, c'était leur meilleur rendement de toute l'année. Qui lit autochtone? Au Québec, on compte 11 peuples autochtones, ce qui signifie 11 langues et 11 littératures. Or, qui s'y intéresse réellement? Les autochtones ou les allochtones? Monsieur et Madame Tout-le-Monde, répond sans hésiter Jocelyn Sioui. Exactement comme n'importe quelle autre littérature. Il y a de tous les genres, poésie, polar, BD, donc ça attire tout plein de monde. C'est plus difficile du côté des autochtones peut-être parce que l'éducation n'est pas la même, car ce n'est pas une critique, mais un constat. Moins il y a d'études, moins il y a de lecteurs. Mais ça tend à changer. Depuis 2009, année de la fondation de la librairie Anunnorak, les lecteurs aussi ont changé. Aux touristes attirés par le folklore, se sont succédés des lecteurs avisés, tant du côté des Wendat que des autres communautés autochtones et des allochtones. Chaque personne peut trouver un intérêt, tout dépendant du type de livre qui les intéresse, explique Cassandre Sioui. Un jeune Atikamekw peut prendre une bande dessinée de Gore Hill comme porte d'entrée, puis se tourner vers la poésie. Les Québécois, qui vont peut-être commencer par Kukum, parce que c'est le livre dont ils ont entendu le plus parler, peuvent ensuite aller vers J.D. Curtness ou vers Virginia Pesé-Mapéo-Bordelot. En découvrant la littérature autochtone, ils constatent qu'il y a une littérature Wendat, une littérature Innu, une littérature Inuit. Si chacune de ces littératures possède ses propres spécificités, les trois Wendat s'entendent pour dire que dans chacune d'elles, l'humour, parfois politiquement incorrect, parfois teinté d'une bonne dose d'ironie ou d'autodérision, y tient une place de choix. Sans oublier la figure du trickster qui apparaît dans les cultures autochtones d'un océan à l'autre. Dans beaucoup de livres, je remarque une volonté de ne pas trop se prendre au sérieux, affirme Jocelyn Sioui. La relation avec le territoire revient pas mal dans toutes les nations. Peut-être parce que la poésie est plus près du rythme de la nature, il y a beaucoup de poètes chez les Innus et aussi chez les Wendat. La transmission est un trait commun aux littératures autochtones, de même que les valeurs traditionnelles, comme le rapport aux autres, la protection de l'environnement. Je pense que les revendications politiques sont plus propres aux Wendat. Avec Louis-Carl Picard-Sioui, on en fait. Au-delà de l'humour, des thèmes et des genres exploités, les littératures des différentes nations expriment la fierté d'être autochtones, en réserve ou pas. On sent aussi la fierté de pouvoir parler sa langue, confirme Daniel Sioui, qui regrette de ne pas parler le Wendat. On a quand même peur que les langues disparaissent. C'est par les arts, et ça, le Québec le sait, qu'on peut faire vivre sa langue. C'est pour ça qu'on est content de voir la résurgence des arts autochtones. On rêve qu'il y ait d'autres maisons d'éditions autochtones, qu'il y ait une relève, parce qu'on ne sera pas là éternellement. Quand la langue t'habite depuis toujours, cela transparaît dans l'écriture, pense Jocelyn Sioui. Je le sens dans le rythme de Joséphine Bacon, qui est Innu. Même moi, qui ne maîtrise pas le Wendat, j'apprends des mots en Wendat, et cela teinte mon écriture, ma réflexion, parce que je découvre un autre sens aux mots. L'ours et l'arbre, par exemple. Instinct de survie. Ce regain d'intérêt pour la culture autochtone serait lié à la découverte des sépultures anonymes près des pensionnats pour autochtones à travers le Canada et du décès de Joyce Echaquan, une Atikamekw victime de racisme systémique en 2020. Malheureusement, ça prend parfois des tragédies pour que les gens se rapprochent, croit Cassandre Sioui. Ce qui s'est passé avec Joyce Echaquan a été un électrochoc. Peu importe notre nation, on est solidaires. À la marche pour le climat avec Greta Thunberg, il y avait des Autochtones de partout au Canada. Avec les pensionnats, les gens ont compris qu'il leur manquait un bout de leur histoire, rappelle Jocelyn Sioui. Il faut comprendre ce qui s'est passé pour s'intéresser à l'autre. Ça prend du temps pour ça. Avant, il n'y avait presque pas de place dans les médias pour les Autochtones. Maintenant, il y a des nouvelles 3 ou 4 fois par semaine. C'est nouveau pour nous et c'est fantastique. Si je lis « Autochtones », occupe le territoire québécois, avec une petite incursion en Ontario, Daniel Sioui ne serait pas contre l'idée de s'associer à un éditeur anglophone afin que l'initiative devienne pan-canadienne. D'ici là, à l'instar d'autres membres des différentes nations, il devra veiller à ce que cet intérêt pour la culture autochtone perdure. Depuis une dizaine d'années, on a travaillé fort pour qu'il y ait une présence autochtone dans les théâtres, les librairies, les écoles. Je vais tout faire pour que l'avenir soit brillant. Je suis très positif dans la vie et je me dis que ce qu'on a gagné, on ne va pas le perdre. Je refuse que ce ne soit qu'un effet de mode, qu'on soit la saveur du mois, conclut Jocelyn Sioui. Jusqu'au 30 juin, dans les librairies participantes, jelisautochtone.ca. C'était La littérature autochtone, plus qu'une saveur du mois, un texte de Manon Dumay, paru le 3 juin 2023 dans Le Devoir.
L'autre justice, un texte de Caroline Touzin et Katia Gagnon, paru le 3 juin 2023 dans La Presse. Des rencontres impensables et pourtant. Le Québec est un pionnier en matière de justice réparatrice chez les ados. Dans le Bas-Saint-Laurent, on pousse le concept très loin. Là où la justice pénale pour adolescents atteint sa limite, la démarche « sens » offre la possibilité aux jeunes de réparer les torts causés tout en impliquant la victime dans le processus judiciaire. La presse s'est rendue dans l'est de la province à la découverte du projet novateur. La loi sur le système de justice pénale pour les adolescents nous interdit d'identifier les jeunes contrevenants. Tous les prénoms des jeunes dans ce reportage sont fictifs. Leur histoire ne l'est pas. Jamais je n'aurais pensé parler à Laurie à moins d'un mètre. J'aurais eu peur qu'elle me saute dessus. À 15 ans, Vanessa a vécu la pire année de sa vie. S'asseoir en face de Laurie, l'adolescente qui l'a intimidée et menacée de mort, c'est difficile, voire impossible à imaginer. C'est pourtant ce qu'on lui propose dans le cadre d'une démarche novatrice de justice réparatrice unique au Québec. Tout a commencé à l'automne 2021. Du jour au lendemain, Vanessa a perdu tous ses amis. À l'école, l'ado, qui a toujours été populaire, mange désormais son lunch seul, enfermé dans les toilettes, pour éviter de se faire traiter de salope ou de grosse conne à la cafétéria. Son crime? Elle s'est mise à fréquenter l'ex-copain de Laurie. Et cette dernière, élève à la même école, ne l'a pas pris. Mais là, pas du tout. Laurie, c'est une fille avec un grand leadership. Elle donnait sa version et les gens prenaient son bord, raconte Vanessa. Vanessa n'a évidemment commis aucun crime, mais face au tribunal populaire de la polyvalente, c'était elle la coupable. « C'était moi, la pas fine », décrit l'ado. « Je n'avais pas le droit de m'expliquer. » Laurie l'humilie devant tout le monde chaque fois qu'elle en a l'occasion, au point où Vanessa s'isole et se renferme. La jeune athlète se met à prendre du poids à force de manger ses émotions. Elle se sent toujours triste. Méconnaissable, elle doit consulter un psy. Un soir, l'adolescente jalouse se pointe chez Vanessa pour la menacer de mort, elle et sa famille. « Ma mère n'a pas eu le choix d'appeler la police », se souvient l'ado. « Ça a dégénéré. » Laurie criait devant chez moi, « Je vais m'ouvrir les veines. » Elle n'était plus comme là, raconte Vanessa. Une autre fois, des amis de Laurie ont collé d'un peu trop près la voiture dans laquelle Vanessa et son copain étaient. Le jeune couple a eu très peur. Ces mêmes amis se sont amusés à faire crisser leurs pneus devant la maison de Vanessa à quelques reprises. L'adolescente aurait préféré ne pas porter plainte. « Je ne voulais pas empirer ma situation », explique-t-elle. « Mais en même temps, Laurie est débarquée chez moi. Who knows ce qu'elle peut faire après ?» Laurie a été accusée au criminel. Un juge lui a interdit d'entrer en contact avec sa victime. Son non-respect de conditions lui a valu un séjour de mise sous garde en centre jeunesse. Laurie a fini par plaider coupable. Elle a été expulsée de son école et de son équipe de sport élite. Le tribunal lui a interdit de sortir de chez elle durant des mois, réduisant sa vie sociale à néant. Dans quel état d'esprit est Laurie aujourd'hui, maintenant qu'elle a purgé sa peine? S'interroge sa victime. Voudra-t-elle se venger? Le processus de justice pénale pour adolescents n'a pas permis à Vanessa de répondre à ses interrogations, encore moins de la rassurer. Un projet novateur de justice réparatrice, la démarche SENS, qui a vu le jour dans cette région de l'Est du Québec en 2019, lui apportera des réponses. Le Québec est un pionnier en matière de justice réparatrice chez les ados, et le Bas-Saint-Laurent pousse la démarche très loin. Vous écoutez L'autre justice, un texte de Caroline Touzin et Katia Gagnon, paru le 27 mai 2023 dans La Presse. À l'écoute des victimes et des contrevenants. La démarche SENS offre la possibilité aux jeunes contrevenants de réparer les torts causés tout en donnant à la victime l'occasion d'être impliquée dans le processus judiciaire. L'une ne remplace pas l'autre. La démarche SENS est intégrée dans le processus de justice pénale pour adolescents. Et elle n'exclut aucun crime. L'ado qui a menacé de faire une tuerie dans une école, ou encore celui qui a transmis une photo intime de son ex-copine à tous ses amis, tous sont admissibles. Une fois que Laurie a plaidé coupable, le juge a demandé au délégué jeunesse la confection d'un rapport prédécisionnel pour mieux la connaître. Le délégué jeunesse, qui relève de la Direction de la protection de la jeunesse, DPJ, et du CISSS, rencontre alors la jeune contrevenante pour ensuite suggérer au juge une peine adéquate. Un intervenant, Déqui Justice, un réseau communautaire de justice réparatrice et de médiation citoyenne, se joint à la rencontre. Cette intervention commune, c'est un défi, explique la directrice générale d'Équi Justice de l'Est, Lise Beaulieu. Dans l'approche de justice réparatrice, le jeune contrevenant a autant de besoins que la personne victime. Il peut aussi avoir été victime de quelque chose, poursuit-elle. Malgré des cultures organisationnelles très différentes, on a réussi à faire un partenariat de feu, s'enthousiasme la chef de service RTS, LSJPA et expertise psychosociale à la DPJ du CISSS du Bas-Saint-Laurent, Marie-Jo Wallen-Bérubé. Au Bas-Saint-Laurent, dès qu'il y a une victime dans un dossier criminel, très tôt dans le processus judiciaire, Équi Justice la contacte. Pour un même délit, d'agression sexuelle par exemple, deux victimes vont avoir des attentes et des besoins différents, explique Caroline Rioux, intervenante et médiatrice chez Équi Justice de l'Est. Son point de vue se retrouvera dans le rapport prédécisionnel. Une tonne de travaux communautaires, pas toujours la solution. C'est aussi bénéfique pour le jeune contrevenant. On se disait, on leur donne donc bien des travaux bénévoles, puis il me semble que ce n'est pas toujours adapté, ajoute Mme Bérubé, du CISSS du Bas-Saint-Laurent. Ça n'a pas toujours de sens pour notre jeune. Ça n'a pas toujours de sens pour la victime. Un jeune à qui on impose 250 heures de travaux communautaires, après 50 heures à laver des fenêtres, par exemple, est-ce que les 200 suivantes vont vraiment l'aider dans sa réadaptation? Demande la chef d'équipe de la DPJ. Quant aux victimes, les travaux communautaires vont rarement répondre à leurs besoins. Certaines victimes ont besoin de s'exprimer, de nommer ce qu'elles ont vécu, de poser des questions. Pourquoi il m'a fait ça? Le processus de réparation leur donne cet espace-là pour s'exprimer, avoir des réponses à leurs questions que le système judiciaire ne leur donne pas, affirme Caroline Rioux, intervenante et médiatrice chez Equijustice de l'Est. Des lettres d'excuses, des mesures de réparation directe ou encore des médiations auraient un plus grand impact, s'est dit l'équipe derrière la démarche Sens. Mais encore faut-il que la victime soit en accord. Sinon, elle se sentira utilisée aux fins de la réadaptation du jeune contrevenant. La mesure de réparation établie après la consultation de la victime et du jeune contrevenant est présentée au juge qui va l'ordonner si elle lui semble raisonnable. Résultat, les mesures de réparation auprès des victimes ont augmenté de façon significative. Vous écoutez L'autre justice, un texte de Caroline Touzin et Katia Gagnon, paru le 27 mai 2023 dans La Presse. Tournez la page. Dans notre société, on n'est pas porté à se parler pour régler nos conflits. On a le réflexe d'appeler la police, déplore Adrianne Lausier, aussi intervenante et médiatrice à Equijustice de l'Est, alors que la médiation permet d'arriver à se parler, d'avoir de meilleurs liens de société en général et d'être ouvert à l'autre. La rencontre entre Vanessa et Laurie en est un exemple. C'est l'occasion pour Vanessa de poser toutes ses questions, de témoigner de ses séquelles. Toute ma vie, je vais être plus sensible au rejet, à l'humiliation. Et d'entendre la version de Laurie, car au tribunal, le processus a été rapide. Pas de place pour les explications, ni quelconque émotion. Pour Laurie, le garçon qui lui a préféré Vanessa était l'amour de sa vie. Aujourd'hui, elle tient à s'excuser. Les deux ados échangeront durant 3 heures. Elles conviennent que tout cela est allé trop loin. Souvent, on riait. Ce n'était pas malaisant, raconte Vanessa. Je ne sais pas si c'était une façade ou si ses excuses étaient sincères, poursuit la victime, mais je trouve que ça a bien fini. On est vraiment rendu ailleurs dans nos vies. Au-delà du Bas-Saint-Laurent. Ailleurs au Québec, pour les adolescents qui ont commis des crimes et leurs victimes, il y a quelques initiatives régionales pouvant émaner des juges de la Cour du Québec, soutenues à l'occasion par des procureurs du Bureau des affaires jeunesse, entre autres, mais il y en a encore trop peu au Québec, explique la directrice des services de justice réparatrice, LSJPA, Equijustice, Catherine Lapierre. C'est une bonne chose pour le déploiement de la justice réparatrice de voir des projets comme la démarche Sens, poursuit-elle. Tous les partenaires qui œuvrent auprès des adolescents et des victimes travaillent ensemble pour les déployer, voire les pérenniser, parce que c'est reconnu qu'il y a des bienfaits pour les personnes elles-mêmes. Au Québec, quand un jeune est arrêté et que l'on possède des preuves suffisantes contre lui, il peut être judiciarisé, tribunal, ou être renvoyé à un programme de sanctions extrajudiciaires, justice réparatrice. Entre 2005 et 2010, 74% des adolescents accusés ont été dirigés vers la justice réparatrice et 41% vers les tribunaux, écrivent deux spécialistes de la justice réparatrice, Serge Charbonneau et la professeure Catherine Rossi, dans leur ouvrage « La médiation relationnelle, rencontre de dialogue et justice réparatrice ». Le total fait plus de 100, car entre 2005 et 2010, certains adolescents ont fait l'objet à la fois d'une sanction extrajudiciaire et d'une sanction pénale et sont comptabilisés dans les deux catégories. Il sait qu'il n'est pas pardonnable. Au moins, il l'a compris. Je ne voulais pas qu'il me voie pleurer à nouveau. Au tribunal, quand Charlotte a vu son agresseur, elle s'est mise à pleurer. Lorsqu'une intervenante d'Équijustice lui a proposé de le rencontrer pour faire de la médiation, l'adolescente de 15 ans a refusé. Plus jamais il ne la verrait en larmes. Je ne voulais pas avoir l'air faible devant lui, tandis que je n'avais aucune raison de me sentir ainsi, raconte celle qui vient de fêter ses 18 ans. Le jeune agresseur et elle ont déjà été de bons amis. Au secondaire, ils ont souvent été dans la même classe. Elle lui faisait confiance. Jusqu'à ce qu'il l'agresse, elle, d'abord. Puis, trois de ses copines, en l'espace de quelques semaines. Quand elle l'a vu comparaître, l'air de s'en foutre, elle s'est promis de ne plus remettre les pieds au tribunal, à moins d'y être forcée. Comme l'ado a plaidé coupable, elle n'a pas eu à témoigner. Le processus de justice pénale lui a laissé un goût amer. C'est compliqué à 15 ans, aller au tribunal. Tu n'es pas censé vivre ça. C'est beaucoup de stress, explique Charlotte. Charlotte tenait tout de même à ce qu'il sache à quel point ses amis et elle avaient souffert. Et souffre encore. L'adolescent a opté pour une médiation indirecte. Après plusieurs rencontres préparatoires avec la médiatrice d'Équijustice, Caroline Rioux, la victime a écrit une lettre à son agresseur.
Pour entendre la suite de L'autre justice, veuillez rester à l'écoute puisque On lit pour vous continue après la pause. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visezvoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Gilbert Lepage et Claire Dorion à la lecture, André Lebeau à la recherche, Nicolas Wartmann à la présentation et au montage.